Divorce de Guy de Maupassant. Lu par Lazare Herson-Macarel.
Maître Bontran, le célèbre avocat parisien, celui qui depuis 10 ans plaide et obtient toutes les séparations entre époux mal assortis, ouvrit la porte de son cabinet et s'effaça pour laisser passer le nouveau client. C'était un gros homme rouge, à favori blond et dru, un homme ventru, sanguin et vigoureux. Il salua. « Prenez un siège, » dit l'avocat. Le client s'assit et, après avoir toussé, « Je viens vous demander, monsieur, de plaider pour moi dans une affaire de divorce. » « Parlez, monsieur, je vous écoute. » « Monsieur, je suis un ancien notaire. »« Déjà ?»« Oui, déjà. J'ai 37 ans. » « Continuez. »« Monsieur, j'ai fait un mariage malheureux. Très malheureux. »« Vous n'êtes pas le seul. » Je le sais et je plains les autres, mais mon cas est tout à fait spécial et mes griefs contre ma femme d'une nature très particulière. Mais je commence par le commencement. Je me suis marié d'une façon très bizarre. Croyez-vous aux idées dangereuses? Qu'entendez-vous par là? Croyez-vous que certaines idées soient aussi dangereuses pour certains esprits que le poison pour le corps? Mais oui, peut-être. Certainement. Il y a des idées qui entrent en nous, nous rongent, nous tuent, nous rendent fous quand nous ne savons pas leur résister. C'est une sorte de phylloxéra des âmes. Si nous avons le malheur de laisser une de ces pensées-là se glisser en nous, si nous ne nous apercevons pas dès le début qu'elle est une envahisseuse, une maîtresse, un tyran, qu'elle s'étend heure par heure, jour par jour, qu'elle revient sans cesse, s'installe, chasse toutes nos préoccupations ordinaires, absorbe toute notre attention et change l'optique de notre jugement. Nous sommes perdus. Voici donc ce qui m'est arrivé, monsieur. Comme je vous l'ai dit, j'étais notaire à Rouen et un peu gêné, non pas pauvre, mais pauvret, mais soucieux, forcé à une économie de tous les instants, obligé de limiter tous mes goûts, oui, tous, et c'est dur à mon âge. Comme notaire, je lisais avec grand soin les annonces des quatrièmes pages des journaux, les offres et demandes, les petites correspondances, etc., etc. Et il m'était arrivé plusieurs fois, par ce moyen, de faire faire à quelques clients des mariages avantageux. Un jour, je tombe sur ceci. Demoiselle jolie, bien élevée, comme il faut, épouserait homme honorable et lui apporterait 2 500 000 francs bien net. Rien des agences. Or, justement, ce jour-là, je dînais avec 2 amis, un avoué et un filateur. Je ne sais comment la conversation vint à tomber sur les mariages et je leur parlais, en riant, de la demoiselle aux 2 500 000 francs. Le filateur dit « Qu'est-ce que c'est que ces femmes-là ? » L'avoué, plusieurs fois, avait vu des mariages excellents conclus dans ces conditions et il donna des détails. Puis il ajouta, en se tournant vers moi, « Pourquoi diable ne vois-tu pas ça pour toi-même ? Christy, ça t'en enlèverait des soucis, 2 500 000 francs. » Nous nous mîmes à rire tous les trois et on parla d'autre chose. 1 heure plus tard, je rentre chez moi. Il faisait froid cette nuit-là. J'habitais d'ailleurs une vieille maison, une de ces vieilles maisons de province qui ressemblent à des champignonnières. En posant la main sur la rampe de fer de l'escalier, un frisson glacé m'entra dans le bras et, comme j'étendais l'autre pour trouver le mur, je sentis en le rencontrant un second frisson m'envahir, plus humide celui-là, et ils se joignirent dans ma poitrine, m'emplirent d'angoisse, de tristesse et d'énervement. Et je murmurai, saisi par un brusque souvenir, « Sacristi, si je les avais, les 2 500 000 !» Ma chambre était lugubre, une chambre de garçon rouennais faite par une bonne chargée aussi de la cuisine. Vous la voyez d'ici, cette chambre. Un grand lit sans rideaux, une armoire, une commode, une toilette, pas de feu, des habits sur les chaises, des papiers par terre. Je me mis à chantonner sur un air de café-concert, car je fréquente quelquefois ces endroits-là. 2 millions, 2 millions sont bons, avec 500 000, et femmes gentilles. Au fait, Je n'avais pas encore pensé à la femme, et j'y songeais tout à coup en me glissant dans mon lit. J'y songeais même si bien que je fus longtemps à m'endormir. Le lendemain, en ouvrant les yeux, avant le jour, je me rappelais que je devais me trouver à 8 heures à Darnétal pour une affaire importante. Il fallait donc me lever à 6 heures. Et il gelait. Christi de Christi, les 2 500 000. Je revins à mon étude vers 10 heures. Il y avait là-dedans une odeur de poils rougis, de vieux papiers, l'odeur des papiers de procédure avancée, rien ne pue comme ça, et une odeur de clair, bottes, redingotes, chemises, cheveux et peau, peau d'hiver, peu lavée, le tout chauffé à 18 degrés. Je déjeunais, comme tous les jours, d'une côtelette brûlée et d'un morceau de fromage. Puis je me remis au travail. C'est alors que je pensais très sérieusement, pour la première fois, à la demoiselle aux 2 500 000. Qui était-ce? Pourquoi ne pas écrire? Pourquoi ne pas savoir? Enfin, monsieur, j'abrège. Pendant 15 jours, cette idée me hanta, m'obséda, me tortura. Tous mes ennuis, toutes les petites misères dont je souffrais sans cesse, sans les noter jusque-là, presque sans m'en apercevoir, me piquaient à présent comme des coups d'aiguille. Et chacune de ces petites souffrances me faisait songer aussitôt à la demoiselle aux 2 500 000. Je finis par imaginer toute son histoire. Quand on désire une chose, monsieur, on se la figure telle qu'on l'espère. Certes, il n'était pas très naturel qu'une jeune fille de bonne famille, dotée d'une façon aussi convenable, cherchât un mari par la voie des journaux. Cependant, il se pouvait faire que cette fille fût honorable et malheureuse. D'abord, cette fortune de 2 500 000 francs ne m'avait pas ébloui comme une chose féerique. Nous sommes habitués, nous autres qui lisons toutes les offres de cette nature, à des propositions de mariage accompagnées de 6, 8, 10 ou même 12 millions. Le chiffre de 12 millions est même assez commun, il plaît. Je sais bien que nous ne croyons guère à la réalité de ces promesses. Elles nous font cependant entrer dans l'esprit ces nombres fantastiques et rendent vraisemblables jusqu'à un certain point, pour notre crédulité inattentive, les sommes prodigieuses qu'ils représentent, et nous disposent à considérer une dot de 2 500 000 francs comme très possible, très morale. Donc, une jeune fille, enfant naturel d'un parvenu et d'une femme de chambre, ayant hérité brusquement de son père, avait appris du même coup la tâche de sa naissance, et pour ne pas avoir à la dévoiler à quelque homme qui l'aurait aimé, faisait appel aux inconnus par un moyen fort usité qui comportait en lui-même une sorte d'aveu de tare originel. Ma supposition était stupide, je m'y attachais cependant. Nous autres notaires, nous ne devrions jamais lire des romans. Et j'en ai lu, monsieur. Donc j'écrivis. Comme notaire, au nom d'un client, et j'attendis. 5 jours plus tard, vers 3 heures de l'après-midi, j'étais en train de travailler dans mon cabinet quand le maître clerc m'annonça « Mademoiselle Chantefrise, faites entrer. » Alors apparut une femme d'environ 30 ans, un peu forte, brune, l'air embarrassé. « Asseyez-vous, mademoiselle. » Elle s'assit et murmura « C'est moi, monsieur. » « Mais, mademoiselle, je n'ai pas l'honneur de vous connaître. »«
La personne à qui vous avez écrit. »«
Pour un mariage ?»«
Oui, monsieur. »«
Ah, très bien. »«
Je suis venu moi-même, parce qu'on fait mieux les choses en personne. »«
Je suis de votre avis, mademoiselle. »« Donc, vous désirez vous marier ?»«
Oui, monsieur. »«
Vous avez de la famille ?»
Elle hésita, baissa les yeux et balbutia « Non, monsieur. » Ma mère et mon père sont morts. Je tressaillis. Donc j'avais deviné juste, et une vive sympathie s'éveilla brusquement dans mon cœur pour cette pauvre créature. Je n'insistai pas pour ménager sa sensibilité, et je repris. « Votre fortune est bien nette. » Elle répondit cette fois sans hésiter. « Oh oui, monsieur. » Je la regardais avec grande attention, et vraiment, elle ne me déplaisait pas. Bien qu'un peu mûre, plus mûre que je n'avais pensé, c'était une belle personne, une forte personne, une maîtresse-femme. Et l'idée me vint de lui jouer une jolie petite comédie de sentiments. de devenir amoureux d'elle, de supplanter mon client imaginaire quand je me serais assuré que la dot n'était pas illusoire. Je lui parlais de ce client que je dépeignis comme un homme triste, très honorable, un peu malade. Elle dit vivement « Oh, monsieur, j'aime les gens bien portants. » Vous le verrez d'ailleurs, mademoiselle, mais pas avant 3 ou 4 jours, car il est parti hier pour l'Angleterre. « Oh, que c'est ennuyeux, dit-elle. Mon Dieu, oui et non. Êtes-vous pressé de retourner chez vous ? Pas du tout. Eh bien, restez ici. Je m'efforcerai de vous faire passer le temps. Vous êtes trop aimable, monsieur. Vous êtes descendu à l'hôtel ? Elle nomma le premier hôtel de Rouen. Eh bien, mademoiselle, voulez-vous permettre à votre futur notaire de vous offrir à dîner ce soir ? Elle parut hésiter, inquiète, indécise, puis elle se décida. « Oui, monsieur. Je vous prendrai chez vous à 7 heures. »« Oui, monsieur. »« Alors, à ce soir, mademoiselle. »« Oui, monsieur. » Et je la reconduisis jusqu'à ma porte. À 7 heures, j'étais chez elle. Elle avait fait des frais de toilette pour moi et me reçut d'une façon très coquette. Je l'emmenai dîner dans un restaurant où j'étais connu et je commandai un menu troublant. 1 heure plus tard, nous étions très amis et elle me contait son histoire. Fille d'une grande dame séduite par un gentilhomme, elle avait été élevée chez des paysans. Elle était riche à présent, ayant hérité de grosses sommes de son père et de sa mère, dont elle ne dirait jamais les noms, jamais. Il était inutile de les lui demander, inutile de la supplier, elle ne les dirait pas. Comme je tenais peu à les savoir, je l'interrogeai sur sa fortune. Elle en parla aussitôt en femme pratique, sûre d'elle, sûre des chiffres, des titres, des revenus, des intérêts et des placements. Sa compétence en cette matière me donna aussitôt une grande confiance en elle, et je devins galant, avec réserve cependant, mais je lui montrai clairement que j'avais du goût pour elle. Elle m'arrivauda, non sans grâce. Je lui offris du champagne et j'en bus, ce qui me troubla les idées. Je sentis alors clairement que j'allais devenir entreprenant, et j'eus peur. Peur de moi, peur d'elle, peur qu'elle ne fût aussi un peu émue et qu'elle ne succomba. Pour me calmer, je recommençai à lui parler de sa dot, qu'il faudrait établir d'une façon précise, car mon client était homme d'affaires. Elle répondit avec gaieté « Oh, je sais, j'ai apporté toutes les preuves. »« Ici, à Rouen ?»« Oui, à Rouen. »« Vous les avez à l'hôtel ?» « Mais oui. »« Pouvez-vous me les montrer ?»« Mais oui. »« Ce soir ?»« Mais oui. » Cela me sauvait de toutes les façons. Je payai l'addition et nous voici rentrant chez elle. Elle avait, en effet, apporté tous ses titres. Je ne pouvais douter. Je les tenais, je les palpais, je les lisais. Cela me mit une telle joie au cœur que je fus pris aussitôt d'un violent désir de l'embrasser. Je m'entends d'un désir chaste, d'un désir d'homme content, et je l'embrassai, ma foi. 1 fois, 2 fois, 10 fois, si bien que, le champagne aidant, je succombai. Ou plutôt, non, elle succomba. Ah, monsieur, j'en fis une tête après cela. Et elle donc, elle pleurait comme une fontaine, en me suppliant de ne pas la trahir, de ne pas la perdre. Je promis tout ce qu'elle voulut, et je m'en allai dans un état d'esprit épouvantable. Que faire ? J'avais abusé de ma cliente. Cela n'eût été rien si j'avais eu un client pour elle, mais je n'en avais pas. C'était moi, le client naïf, le client trompé, trompé par lui-même. Quelle situation ! Je pouvais la lâcher, c'est vrai, mais la dot, la belle dot, la bonne dot, palpable, sûre. Et puis avais-je le droit de la lâcher, la pauvre fille, après l'avoir ainsi surprise ? Mais que d'inquiétude plus tard ! Combien peu de sécurité avec une femme qui succombait ainsi ! Je passai une nuit terrible, d'indécision, torturée de remords, ravagée de crainte, ballottée par tous les scrupules. Mais au matin, ma raison s'éclaircit. Je m'habillai avec recherche et je me présentai, comme 11 heures sonnait, à l'hôtel qu'elle habitait. En me voyant, elle rougit jusqu'aux yeux. Je lui dis « Mademoiselle, Je n'ai plus qu'une chose à faire pour réparer nos torts. Je vous demande votre main. » Elle balbutia. « Je vous la donne. Je l'épousai. » Tout alla bien pendant 6 mois. J'avais cédé mon étude, je vivais en rentier, et vraiment je n'avais pas un reproche, mais pas un seul, à adresser à ma femme. Cependant, je remarquai peu à peu que, de temps en temps, elle faisait de longues sorties. Cela arrivait à jour fixe, une semaine le mardi, l'autre semaine le vendredi. Je me crus trompé, je la suivis. C'était un mardi. Elle sortit à pied vers 1 heure, descendit la rue de la République, tourna à droite par la rue qui suit le palais archiépiscopal, prit la rue Grand-Pont jusqu'à la Seine, longea le quai jusqu'au pont de pierre, traversa l'eau. À partir de ce moment, elle parut inquiète, se retournant souvent, épiant tous les passants. Comme je m'étais costumé en charbonnier, elle ne me reconnut pas. Enfin, elle entra dans la gare de la rive gauche. Je ne doutais plus. Son amant allait arriver par le train d'1h45. Je me cachai derrière un camion et j'attendis. Un coup de sifflet, un flot de voyageurs. Elle s'avance, s'élance, saisit dans ses bras une petite fille de 3 ans qu'une grosse paysanne accompagne et l'embrasse avec passion. Puis elle se retourne, aperçoit un autre enfant, plus jeune, fille ou garçon, porté par une autre campagnarde, se jette dessus, l'étreint avec violence et s'en va, escorté des 2 mioches et des 2 bonnes, vers la longue et sombre et déserte promenade du cours La Reine. Je rentrai effaré, l'esprit en détresse, comprenant et ne comprenant pas, n'osant point deviner. Quand elle revint pour dîner, je me jetai vers elle, hurlant « Quels sont ces enfants ?»« Quels enfants ? Ceux que vous attendiez au train de Saint-Sever ?» Elle poussa un grand cri et s'évanouit. Quand elle revint à elle, elle me confessa, dans un déluge de larmes, qu'elle en avait 4. « Oui, monsieur, 2 pour le mardi, 2 filles, et 2 pour le vendredi, 2 garçons. » Et c'était là, quelle honte! C'était là l'origine de sa fortune, les 4 pères. Elle avait amassé sa dot. Maintenant, monsieur, que me conseillez-vous de faire? L'avocat répondit avec gravité. Reconnaître vos enfants, monsieur.
Vous venez d'entendre « Divorce » de Guy de Maupassant, lu par Lazare Herson-Macarel. Choix du texte, Marie-Louise Bischofberger. Conseillère littéraire, Caroline Oisana. Prise de son, montage et mixage, Mathieu Tourin. Assistante à la réalisation, Eleonora Farad. Réalisation, Baptiste Guiton. Wagon de Guy de Maupassant, lu par Clémentine Verdier.
Le soleil allait disparaître derrière la grande chaîne dont le Puy de Dôme est le géant, et l'ombre des cimes s'étendait dans la profonde vallée de Roya. Quelques personnes se promenaient dans le parc, autour du kiosque de la musique. D'autres demeuraient encore assises, par groupe, malgré la fraîcheur du soir. Dans un de ces groupes, on causait avec animation, car il était question d'une grave affaire qui tourmentait beaucoup mesdames de Sarcagne, de Volacelles et de Bridoy. Dans quelques jours allaient commencer les vacances, et il s'agissait de faire venir leur fils élevé chez les jésuites et chez les dominicains. Or, ces dames n'avaient point envie d'entreprendre elles-mêmes le voyage pour ramener leurs descendants, et elle ne connaissait justement personne qu'elle pût charger de ce soin délicat. On touchait au dernier jour de juillet. Paris était vide. Elle cherchait, sans trouver, un nom qui leur offrit les garanties désirées. Leur embarras s'augmentait de ce qu'une vilaine affaire de mœurs avait eu lieu quelques jours auparavant dans un wagon, et ces dames demeuraient persuadées que toutes les filles de la capitale passaient leur existence dans les rapides, entre l'Auvergne et la gare de Lyon. Les échos de Gil Blas, d'ailleurs, au dire de Monsieur de Bridoy, signalaient la présence à Vichy, au Mont d'Or et à la Bourboule de toutes les horizontales connues et inconnues. Pour y être, elles avaient dû y venir en wagon. Et elles s'en retourneraient indubitablement encore en wagon. Elles devaient même s'en retourner sans cesse pour revenir tous les jours. C'était donc un va-et-vient continu d'impurs sur cette maudite ligne. Ces dames se désolaient que l'accès des gares ne fût pas interdit aux femmes suspectes. Or, Roger de Sarcagne avait 15 ans, Gontran de Volacelle, 13 ans, et Roland de Bridoy, 11 ans. Que faire ? Elles ne pouvaient pas, cependant, exposer leurs chers enfants au contact de pareilles créatures. Que pouvaient-ils entendre ? Que pouvaient-ils voir ? Que pouvaient-ils apprendre s'ils passaient une journée entière, ou une nuit, dans un compartiment qui enfermerait peut-être une ou deux de ces drôlesses avec un ou deux de leurs compagnons ? La situation semblait sans issue quand Madame de Martinsègue vint à passer. Elle s'arrêta pour dire bonjour à ses amis qui lui racontèrent leurs angoisses. « Mais c'est bien simple, s'écria-t-elle, je vais vous prêter l'abbé. Je peux très bien m'en passer pendant 48 heures, l'éducation de Rodolphe ne sera pas compromise pour si peu. Il ira chercher vos enfants et vous les ramènera. » Il fut donc convenu que l'abbé Lecuire, un jeune prêtre fort instruit, précepteur de Rodolphe de Martinsègue, irait à Paris la semaine suivante chercher les trois jeunes gens. L'abbé partit donc le vendredi, et il se trouvait à la gare de Lyon le dimanche matin pour prendre avec ses trois gamins le rapide de 8 heures, le nouveau rapide direct organisé depuis quelques jours seulement sur la réclamation générale de tous les baigneurs de l'Auvergne. Il se promenait sur le quai de départ, suivi de ses collégiens comme une poule de ses poussins, et il cherchait un compartiment vide ou occupé par des gens d'aspect respectable, car il avait l'esprit hanté par toutes les recommandations minutieuses que lui avaient faites mesdames de Sarcagne, de Volacelle et de Bridoy. Or, il aperçut tout à coup, devant une portière, un vieux monsieur et une vieille dame à cheveux blancs qui causaient avec une autre dame installée dans l'intérieur du wagon. Le vieux monsieur était officier de la Légion d'honneur, et ses gens avaient l'aspect le plus comme il faut. « Voici mon affaire », pensa l'abbé. Et il fit monter les trois élèves et les suivit. La vieille dame disait « Surtout soigne-toi bien, mon enfant ». La jeune répondit « Oh oui, maman, ne crains rien. Appelle le médecin aussitôt que tu te sentiras souffrante. Oui, oui, maman. Allons, adieu, ma fille. » « Adieu, maman. » Il y eut une longue embrassade, puis un employé ferma les portières et le train se mit en route. Ils étaient seuls. L'abbé, ravi, se félicitait de son adresse et il se mit à causer avec les jeunes gens qui lui étaient confiés. Il avait été convenu, le jour de son départ, que Madame de Martinsègue l'autoriserait à donner des répétitions pendant toutes les vacances à ses trois garçons, et il voulait sonder un peu l'intelligence et le caractère de ses nouveaux élèves. Roger de Sarcagne, le plus grand, était un de ces hauts collégiens poussés trop vite, maigres et pâles, et dont les articulations ne semblent pas tout à fait soudées. Il parlait lentement, d'une façon naïve. Gontran de Volacelle, au contraire, demeurait tout petit, trapu, et il était malin, sournois, mauvais et drôle. Il se moquait toujours de tout le monde, avait des mots de grande personne, des répliques à double sens qui inquiétaient ses parents. Le plus jeune, Roland de Bridoy, ne paraissait montrer aucune aptitude pour rien. C'était une bonne petite bête qui ressemblerait à son papa. L'abbé les avait prévenus qu'ils seraient sous ses ordres pendant ces 2 mois d'été, et il leur fit un sermon bien senti sur leur devoir envers lui, sur la façon dont il entendait les gouverner et sur la méthode qu'il emploierait envers eux. C'était un abbé d'âme droite et simple, un peu phraseur et plein de système. Son discours fut interrompu par un profond soupir que poussa leur voisine. Il tourna la tête vers elle. Elle demeurait assise dans son coin, les yeux fixes, les joues un peu pâles. L'abbé revint à ses disciples. Le train roulait à toute vitesse, traversait des plaines, des bois, passait sous des ponts et sur des ponts, secouait de sa trépidation frémissante le chapelet de voyageurs enfermés dans les wagons. Gontran de Volacelle, maintenant, interrogeait l'abbé Lecuir sur Roya, sur les amusements du pays. Y avait-il une rivière? Pouvait-on pêcher? Aurait-il un cheval comme l'autre année? Etc. La jeune femme, tout à coup, jeta une sorte de cri, un « ah » de souffrance vite réprimée. Le prêtre, inquiet, lui demanda « Vous sentez-vous indisposée, madame ?» Elle répondit « Non, non, monsieur l'abbé, ce n'est rien. Une légère douleur, ce n'est rien. Je suis un peu malade depuis quelque temps et le mouvement du train me fatigue. » Sa figure était devenue livide, en effet. Il insista. « Si je puis quelque chose pour vous, madame... »« Oh non, rien du tout, monsieur l'abbé. Je vous remercie. » Le prêtre reprit sa causerie avec ses élèves, les préparant à son enseignement et à sa direction. Les heures passaient. Le convoi s'arrêtait de temps en temps, puis repartait. La jeune femme, maintenant, paraissait dormir et elle ne bougeait plus, enfoncée en son coin. Bien que le jour fût plus qu'à moitié écoulé, elle n'avait encore rien mangé. L'abbé pensait « Cette personne doit être bien souffrante. » Il ne restait plus que 2 heures de route pour atteindre Clermont-Ferrand, quand la voyageuse se mit brusquement à gémir. Elle s'était laissée presque tomber de sa banquette et, appuyée sur les mains, les yeux hagards, les traits crispés, elle répétait « Oh mon Dieu! Oh mon Dieu !» L'abbé s'élança. « Madame, 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 qu'avez-vous ? » Elle balbutia « Je crois que je vais accoucher !» Et elle commença aussitôt à crier d'une effroyable façon. Elle poussait une longue clameur affolée qui semblait déchirer sa gorge au passage, une clameur aiguë, affreuse, dont l'intonation sinistre disait l'angoisse de son âme et la torture de son corps. Le pauvre prêtre éperdu, debout devant elle, ne savait que faire, que dire, que tenter, et il murmurait « Mon Dieu, si je savais, mon Dieu, si je savais !» Il était rouge jusqu'au blanc des yeux. Et ses 3 élèves regardaient avec stupeur cette femme étendue qui criait. Tout à coup, elle se tordit, élevant ses bras sur sa tête, et son flanc eut une secousse étrange, une convulsion qui la parcourut. L'abbé pensa qu'elle allait mourir, mourir devant lui, privée de secours et de soins par sa faute. Alors il dit d'une voix résolue « Je vais vous aider, madame. Je ne sais pas, mais je vous aiderai comme je pourrai. Je dois mon assistance à toute créature qui souffre. » Puis s'étant retourné vers les 3 gamins, il cria « Vous, vous allez passer vos têtes à la portière !» Et si l'un de vous se retourne, il me copiera 1000 vers de Virgile. » Il abaissa lui-même les 3 glaces, y plaça les 3 têtes, ramena contre le cou les rideaux bleus, et il répéta « Si vous faites seulement un mouvement, vous serez privé d'excursion pendant toutes les vacances. Et n'oubliez point que je ne pardonne jamais, moi !» Et il revint vers la jeune femme en relevant les manches de sa soutane. Elle gémissait toujours et par moments hurlait. L'abbé, la face cramoisie, l'assistait, l'exhortait, la réconfortait et sans cesse, il levait les yeux vers les 3 gamins qui coulaient des regards furtifs, vite détournés vers la mystérieuse besogne accomplie par leur nouveau précepteur. « Monsieur de Volacelle, vous me copierez 20 fois le verbe désobéir » criait-il. « Monsieur de Bridois, vous serez privé de dessert pendant 1 mois !» Soudain, la jeune femme cessa sa plainte persistante et presque aussitôt, un cri bizarre et léger qui ressemblait à un aboiement et à un miaulement fit retourner d'un seul élan les 3 collégiens persuadés qu'ils venaient d'entendre un chien nouveau-né. L'abbé tenait dans ses mains un petit enfant tout nu. Il le regardait avec des yeux effarés. Il semblait content et désolé, prêt à rire et prêt à pleurer. On l'aurait cru fou, tant sa figure exprimait de choses par le jeu rapide des yeux, des lèvres et des joues. il déclara, comme s'il eût annoncé à ses élèves une grande nouvelle, « C'est un garçon !» Puis aussitôt, il reprit. « Monsieur de Sarcagne, passez-moi la bouteille d'eau qui est dans le filet. Bien, débouchez-la. Très bien, versez-moi quelques gouttes dans la main, seulement quelques gouttes. Parfait. » Et il répandit cette eau sur le front nu du petit être qu'il portait en prononçant « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. » Le train entrait en gare de Clermont. La figure de Madame de Bridoy apparut à la portière. Alors l'abbé, perdant la tête, lui présenta la frêle bête humaine qu'il venait de cueillir en murmurant « C'est Madame qui vient d'avoir un petit accident en route. » Il avait l'air d'avoir ramassé cet enfant dans un égout. Et, les cheveux mouillés de sueur, le rabat sur l'épaule, la robe maculée, il répétait « Ils n'ont rien vu, rien du tout, j'en réponds. » Ils regardaient tous trois par la portière « J'en réponds, ils n'ont rien vu. » Et il descendit du compartiment avec quatre garçons au lieu de trois qu'il était allé chercher, tandis que mesdames de Bridoy, de Volacelle et de Sarcagne, livides, échangeaient des regards éperdus sans trouver un seul mot à dire. Le soir, les trois familles dînaient ensemble pour fêter l'arrivée des collégiens, mais on ne parlait guère. Les pères, les mères et les enfants eux-mêmes semblaient préoccupés. Tout à coup, le plus jeune, Roland de Bridoy, demanda « Dis maman, où l'abbé l'a-t-il trouvé, ce petit garçon ?» La mère ne répondit pas directement. « Allons, dîne et laisse-nous tranquille avec tes questions. » Il se tut quelques minutes, puis reprit. Il n'y avait personne que cette dame qui avait mal au ventre. C'est donc que l'abbé est prestidigitateur, comme Robert Houdin qui fait venir un bocal de poisson sous un tapis. Tais-toi, voyons, c'est le bon Dieu qui l'a envoyé. Mais où l'avait-il mis, le bon Dieu? Je n'ai rien vu, moi. Est-il entré par la portière? Dis. Madame de Bridoy, impatientée, répliqua. Voyons, c'est fini, tais-toi, il est venu sous un chou comme tous les petits enfants, tu le sais bien. Mais il n'y avait pas de chou dans le wagon. Alors Gontran de Volacelle, qui écoutait avec un air sournois, sourit et dit « Si, il y avait un chou. » Mais il n'y a que Monsieur l'abbé qui l'a vu.
Vous venez d'entendre « En wagon » de Guy de Maupassant, lu par Clémentine Verdier. Le crime au père Boniface, de Guy de Maupassant, lu par Olivier Balazuc.
Ce jour-là, le facteur Boniface, en sortant de la maison de poste, constata que sa tournée serait moins longue que de coutume, et il en ressentit une joie vive. Il était chargé de la campagne, autour du bourg de Vireville, et quand il revenait le soir de son long pas fatigué, il avait parfois plus de 40 kilomètres dans les jambes. Donc la distribution serait vite faite. Il pourrait même flâner un peu en route et rentrer chez lui vers 3 heures de relevé. Quelle chance ! Il sortit du bourg par le chemin de Seine-Mare et commença sa besogne. On était en juin, dans le mois vert et fleuri, le vrai mois des plaines. L'homme, vêtu de sa blouse bleue et coiffé d'un képi noir à galons rouges, traversait par des sentiers étroits les champs de colza, d'avoine ou de blé, enseveli jusqu'aux épaules dans les récoltes. Et sa tête, passant au-dessus des épis, semblait flotter sur une mer calme et verdoyante qu'une brise légère faisait mollement onduler. Il entrait dans les fermes, par la barrière de bois plantée dans les talus qu'ombrageaient deux rangées de hêtres, et saluant par son nom le paysan, « Bonjour, maître Chico !» Il lui tendait son journal, le petit Normand. Le fermier essuyait sa main à son fond de culotte, recevait la feuille de papier et la glissait dans sa poche pour la lire à son aise après le repas de midi. Le chien, logé dans un baril au pied d'un pommier penchant, jappait avec fureur en tirant sur sa chaîne. Et le piéton, sans se retourner, repartait de son allure militaire en allongeant ses grandes jambes, le bras gauche sur sa sacoche et le droit manœuvrant sur sa canne qui marchait comme lui d'une façon continue et pressée. Il distribua ses imprimés et ses lettres dans le hameau de Seine-Mare, puis il se remit en route à travers champs pour porter le courrier du percepteur, qui habitait une petite maison isolée à 1 kilomètre du bourg. C'était un nouveau percepteur, Monsieur Chapatis, arrivé la semaine dernière et marié depuis peu. Il recevait un journal de Paris, et parfois le facteur Boniface, quand il avait le temps, jetait un coup d'œil sur l'imprimé avant de le remettre au destinataire. Donc, il ouvrit sa sacoche, prit la feuille, la fit glisser hors de sa bande, la déplia et se mit à lire tout en marchant. La première page ne l'intéressait guère, la politique le laissait froid, il passait toujours la finance, mais les faits divers le passionnaient. Ils étaient très nourris ce jour-là. Il s'émut même si vivement au récit d'un crime accompli dans le logis d'un garde-chasse qu'il s'arrêta au milieu d'une pièce de trèfle pour le relire lentement. Les détails étaient affreux. Un bûcheron, en passant au matin auprès de la maison forestière, avait remarqué un peu de sang sur le seuil, comme si on avait saigné du nez. « Le garde aura tué quelques lapins cette nuit », pensa-t-il. Mais en approchant, il s'aperçut que la porte demeurait entrouverte et que la serrure avait été brisée. Alors, saisi de peur, il courut au village prévenir le maire. Celui-ci prit comme renfort le garde champêtre et l'instituteur, et les quatre hommes revinrent ensemble. Ils trouvèrent le forestier égorgé devant la cheminée, sa femme étranglée sous le lit, et leur petite fille, âgée de 6 ans, étouffée entre 2 matelas. Le facteur Boniface demeura tellement ému à la pensée de cet assassinat, dont toutes les horribles circonstances lui apparaissaient coup sur coup, qu'il se sentit une faiblesse dans les jambes, et il prononça tout haut « Nom de nom! Y a-t-il tout de même des gens qui sont canailles ?» Puis il repassa le journal dans sa ceinture de papier et repartit, la tête pleine de la vision du crime. Il atteignit bientôt la demeure de M. Chapatis. Il ouvrit la barrière du petit jardin et s'approcha de la maison. C'était une construction basse, ne contenant qu'un rez-de-chaussée, coiffé d'un toit mansardé. Elle était éloignée de 500 mètres au moins de la maison la plus voisine. Le facteur monta les 2 marches du perron, posa la main sur la serrure, essaya d'ouvrir la porte et constata qu'elle était fermée. Alors, il s'aperçut que les volets n'avaient point été ouverts et que personne encore n'était sorti ce jour-là. Une inquiétude l'envahit, car M. Chapatis, depuis son arrivée, s'était levé assez tôt. Boniface tira sa montre. Il n'était encore que 7h10 du matin. Il se trouvait donc en avance de près d'une heure. N'importe, le percepteur aurait dû être debout. Alors il fit le tour de la demeure en marchant avec précaution, comme s'il eût couru quelque danger. Il ne remarqua rien de suspect. Que des pas d'homme dans une plate-bande de fraisiers. Mais tout à coup, il demeura immobile, perclus d'angoisse, en passant devant une fenêtre. On gémissait dans la maison. Il s'approcha et, enjambant une bordure de thym, colla son oreille contre l'auvent pour mieux écouter. Assurément, on gémissait. Il entendait fort bien de longs soupirs douloureux, une sorte de râle, un bruit de lutte. Puis les gémissements devinrent plus forts, plus répétés, s'accentuèrent encore, se changèrent en cris. Alors Boniface, ne doutant plus qu'un crime s'accomplissait en ce moment-là même chez le percepteur, partit à toutes jambes, retraversa le petit jardin, s'élança à travers la plaine, à travers les récoltes, courant à perdre haleine, secouant sa sacoche qui lui battait les reins, et il arriva, exténué, haletant, éperdu, à la porte de la gendarmerie. Le brigadier mal autour raccommodait une chaise brisée au moyen de pointes et d'un marteau. Le gendarme rôtier tenait entre ses jambes le meuble avarié et présentait un clou sur les bords de la cassure. Alors le brigadier, mâchant sa moustache, les yeux ronds et mouillés d'attention, tapait à tout coup sur les doigts de son subordonné. Le facteur, dès qu'il les aperçut, s'écria « Venez vite, on assassine le percepteur, vite, vite !» Les deux hommes cessèrent leur travail et levèrent la tête, ces têtes étonnées de gens qu'on surprend et qu'on dérange. Boniface, les voyant plus surpris que pressés, répéta « Vite, vite, les voleurs sont dans la maison, j'ai entendu les cris, il n'est que temps !» Le brigadier, posant son marteau par terre, demanda « Qu'est-ce qui vous a donné connaissance de ce fait ?» Le facteur reprit. J'allais porter le journal, avec deux lettres, quand je remarquai que la porte était fermée et que le percepteur n'était pas levé. Je fis le tour de la maison pour me rendre compte, et j'entendis qu'on gémissait, comme si on eût étranglé quelqu'un, ou qu'on lui eût coupé la gorge. Alors je m'en suis parti au plus vite pour vous chercher, il n'est que temps. Le brigadier, se redressant, reprit. Et vous n'avez pas porté secours en personne ? Le facteur effaré répondit. Je craignais de n'être pas en nombre suffisant. Alors le gendarme, convaincu, annonça « Le temps de me vêtir et je vous suis ». Et il entra dans la gendarmerie, suivi par son soldat qui rapportait la chaise. Ils reparurent presque aussitôt et tous trois se mirent en route au pas gymnastique pour le lieu du crime. En arrivant près de la maison, ils ralentirent leur allure par précaution et le brigadier tira son revolver. Puis ils pénétrèrent tout doucement dans le jardin et s'approchèrent de la muraille. Aucune trace nouvelle n'indiquait que les malfaiteurs fussent partis. La porte demeurait fermée, les fenêtres closes. « Nous les tenons !» murmura le brigadier. Le père Boniface, palpitant d'émotion, le fit passer de l'autre côté et lui montrant un auvent, « C'est là » dit-il. Et le brigadier s'avança tout seul et colla son oreille contre la planche. Les deux autres attendaient, prêts à tout, les yeux fixés sur lui. Il demeura longtemps immobile, écoutant. Pour mieux approcher sa tête du volet de bois, il avait ôté son tricorne et le tenait de sa main droite. Qu'entendait-il ? Sa figure impassible ne révélait rien. Mais soudain, sa moustache se retroussa, ses joues se plissèrent comme pour un rire silencieux, et enjambant de nouveau la bordure de buis, il revint vers les deux hommes qui le regardaient avec stupeur. Puis il leur fit signe de le suivre en marchant sur la pointe des pieds. Et revenant devant l'entrée, il enjoignit à Boniface de glisser sous la porte le journal et les lettres. Le facteur, interdit, obéit cependant avec docilité. « Et maintenant, en route !» dit le brigadier. Mais dès qu'ils eurent passé la barrière, il se retourna vers le piéton et d'un air goguenard, la lèvre narquoise, l'œil retroussé et brillant de joie, « Que vous êtes un malin, vous !» Le vieux demanda, « De quoi ? J'ai entendu ! Je vous jure que j'ai entendu !» Mais le gendarme, n'y tenant plus, éclata de rire. Il riait comme on suffoque, les deux mains sur le ventre, pliées en deux, l'œil plein de larmes, avec d'affreuses grimaces autour du nez. Et les deux autres, affolés, le regardaient. Mais comme il ne pouvait ni parler, ni cesser de rire, ni faire comprendre ce qu'il avait, il fit un geste populaire et polisson. Comme on ne le comprenait toujours pas, il le répéta, plusieurs fois de suite, en désignant d'un signe de tête la maison toujours close. Et son soldat, comprenant brusquement à son tour, éclata d'une gaieté formidable. Le vieux demeurait stupide entre ces deux hommes qui se tordaient. Le brigadier, à la fin, se calma et, lançant dans le ventre du vieux une grande tape d'homme qui rigole, il s'écria « Ah, farceur ! Sacré farceur ! Je le retiendrai, le crime au père Boniface !» Le facteur ouvrait des yeux énormes et il répéta « Je vous jure que j'ai entendu !» Le brigadier se remit à rire. Son gendarme était assis sur l'herbe du fossé pour se tordre tout à son aise. « Ah, t'as entendu ? Et ta femme ? C'est-y comme ça que tu l'assassines ? Hein, vieux farceur ? Ma femme ?» Et il se mit à réfléchir longuement. Puis il reprit. « Ma femme ? Oui, elle gueule quand j'y fiche des coups. Mais elle gueule que c'est gueulé, quoi. C'est-y donc que Monsieur Chapatibat est la sienne ?» Alors le brigadier, dans un délire de joie, le fit tourner comme une poupée par les épaules et lui souffla dans l'oreille quelque chose dont l'autre demeura abruti d'étonnement. Puis le vieux, pensif, murmura « Non, point comme ça, point comme ça, point comme ça. Elle dit rien, la mienne. J'aurais jamais cru. Si c'est possible. On aurait juré une martyre. » Et confus, désorienté, honteux, il reprit son chemin à travers les champs, tandis que le gendarme et le brigadier, riant toujours et lui criant de loin de grasses plaisanteries de caserne, regardaient s'éloigner son képi noir sur la mer tranquille des récoltes.
Venez d'entendre « Le crime au père Boniface » de Guy de Maupassant. Lu par Olivier Balazuc. Conseillère littéraire, Caroline Oisana. Choix du texte, Marie-Louise Bischoff-Berger. Prise de son, montage et mixage, Benjamin Perru, Antoine Viossa, Victoria Asper et Mathieu Tourin. Assistante à la réalisation, Eleonora Farad et Claire Chesneau. Réalisation, Baptiste Guiton.